J'adore nos nouveaux beds. Il est présentement 12h43. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission Nageurs, je le rappelle, et vous vous intéressez énormément. 418-971-1021 pour interagir avec nous. Également, on est sur twitch.tv/blvd/fm. Vous pouvez participer au chat. D'ailleurs, là, il y a un auditeur ou une auditrice qui écrit « Ben oui, c'est négatif, arrête de te mettre la tête dans le sable » en parlant de Mathieu Lacombe qui a dit « Ah, ça arrive dans tous les partis politiques. » On s'entend, la CAQ est en difficulté là, à l'heure actuelle,
ben,
donc
oui.
Je suis très d'accord.
J'aurais aimé ça, avoir une réponse, puis là, bon, j'ai peut-être essayé, mais oui. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais tu sais, si j'en donne pas, je pognerai pas de poisson.
Ben non, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une division au sein de la CAQ depuis un bon bout est observée, puis ma question, je la martèle. Mais François Legault avait-il préparé sa relève comme il se doit dans un parti politique? Puis parce qu'en ce moment, clairement, ce qui aurait été bénéfique, je pense, pour la CAQ, c'est de savoir c'est qui notre prochain joueur. C'est qui qui allait remplacer François Legault pour qu'on se perde pas dans une course à la chefferie puis qu'on garde le cap pour montrer qu'on est fort, qu'on est bien en selle. Parce qu'on n'était pas bien en selle et on n'est pas assez fort face à plusieurs enjeux. Plusieurs projets de loi qui ont achoppé, qui ont été difficiles. Je me disais, si au moins la succession, elle était pure et dure établie, puis tout le monde se ralliait, on aurait dit, tu sais, il y a une division dans toute course à la chefferie, là.
Ben oui, ça, tout le temps.
Je veux dire, Charles Millière, Blackburn, les équipes se sont pognées tout le long pour la course à la chefferie chez les libéraux lors de la dernière fois. Tu sais, Jeff, je pense que ça aurait été un bon air d'aller tous vers le même point.
Il l'avait préparé, sa succession, c'était Geneviève Guilbeault, mais il l'a coulé avec le projet du troisième lien. C'est
il l'a coulé lui-même.
Ah oui, il l'a coulé lui-même.
Il y a une protection à faire. Là,
vraiment. Pascal, as-tu vu dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, comment nos cégeps font dur?
Je m'attendais pas à ça, honnêtement. J'ai l'impression que toujours un peu l'enfant pauvre de l'éducation quand tu viens à parler des enjeux. On parle souvent primaire, secondaire, même université. Cégep, souvent deux chaises.
Oui, souvent deux chaises et là, complètement laissé à l'abandon par les différents paliers de gouvernement. Et on va justement parler avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. Madame Montpetit, merci de votre disponibilité aujourd'hui.
Merci à vous de me recevoir. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Madame Montpetit, est-ce que la situation est pire que jamais dans nos cégeps, là, avec les photos qu'on a vues, les reportages dans le Journal de Québec, Journal de Montréal? J'aurais l'impression de dire oui, là.
Bien, à cause du sous-financement chronique, dans le fond, oui, là, le déficit de maintien d'actifs augmente d'année en année. Tu sais, vous vous rappellerez, il y a deux ans, tout juste, la vérificatrice générale du Québec avait tiré la sonnette d'alarme, justement, en disant il faut absolument qu'il y ait des investissements majeurs qui soient mis en place parce qu'il y a trop de bâtiments dans le réseau collégial public qui est vétustes. Mais depuis ce temps-là, le financement pour entretenir les bâtiments, il a diminué de 50 % des allocations qui sont données par le gouvernement. Donc, c'est sûr que l'écart, là, le fossé, il continue de se creuser là, entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait.
Est-ce que, au niveau des infrastructures, si le gouvernement continue à financer aussi peu, à un moment donné, on va être rendu, je sais qu'au cégep Saint-Laurent, on a fermé un pavillon, est-ce qu'on va être rendu à carrément abandonner les cégeps?
Écoutez, on en est vraiment pas là, mais la grande préoccupation, c'est ça, là, c'est qu'à l'heure actuelle, faute d'argent, il y a des travaux préventifs qui ne peuvent pas être faits. Puis ça, c'est comme dans n'importe quoi, là. C'est comme dans une maison. Quand on n'arrive pas à faire du préventif, ben on se met à risque d'avoir des bris de service, on se met à risque d'avoir des travaux d'urgence, des travaux forcément comme ils sont faits en urgence qui coûtent beaucoup plus cher. Encore dernièrement, on en a eu là dans les dernières semaines des infiltrations d'eau, des dégâts d'eau. Là, ça amène à fermer des pavillons. Puis on est dans un contexte de manque d'espace. Hein. Vous savez, là, ça fait deux ans consécutifs qu'on a les plus grandes hausses d'étudiants dans nos 48 cégeps. Puis on sait qu'on va encore avoir des milliers d'étudiants supplémentaires à la prochaine rentrée collégiale et encore pour les 10 prochaines années. Là. C'est les jeunes là, qui sont nés à la fin des années 2000 là, qui font leur rentrée. Là. On savait que ça s'en venait. C'est pour ça qu'on faisait des demandes justement pour agrandir. Mais c'est la grande préoccupation là, de ne pas avoir les montants suffisants, non seulement pour créer de l'espace, mais aussi justement pour entretenir ce qui est déjà là. Puis c'est des biens publics, hein. Tu sais, moi, je faut pas qu'on perde ça de vue. C'est un actif public, là, les cégeps. Donc, il y a une responsabilité de bien les entretenir.
C'est particulier de constater ça parce que là, bon, on va faire une petite histoire courte. Là, vous l'avez dit, on pouvait voir les chiffres venir en termes d'augmentation d'écoliers, fort probablement au cégep, juste par le boom de natalité, juste par les natalités. On était capable de suivre primaire, secondaire, cégep, université, approximativement, de combien ça allait augmenter. On a été un peu pris par surprise. On a fait des conteneurs pour mettre les élèves là, au secondaire, dans bien des écoles et même au primaire. Au niveau du cégep, c'est où que la courroie de transmission a chopé par rapport aux travaux? Où est-ce qu'on n'a pas vu les travaux venir? Qui n'a pas sonné la sonnette d'alarme pour qu'on soit rendu finalement à avoir de la décrépitude très avancée?
Bien, au niveau du réseau collégial public, c'est des demandes qui sont faites de longue date. Là. Vous le nommez bien, là, ces enfants-là sont nés en 2007-2008, dans ces eaux-là 2009. Ils ont 17, 18, 19 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on savait que ce boom démographique-là venait. C'est les jeunes qui ont été, malheureusement, il n'y avait pas de place en garderie. Après ça, ça a été des modulaires dans les écoles primaires, des modulaires dans les écoles secondaires. T'sais, c'est ces cohortes-là qui font leur entrée au cégep. Nous, c'est des demandes qu'on fait de façon répétée depuis des années à dire, écoutez, le train a quitté la gare, là, ces jeunes-là s'en viennent, il faut être capable de les accueillir. Et là, on arrive dans une situation où, bon, tu sais, les cégeps, là, ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de créativité, d'innovation. Ça a grandi par l'intérieur. Il y a des espaces qui ont été ajoutés partout. Mais il y a plusieurs cégeps qui approchent de la pleine capacité, là, qui sont vraiment à la limite. Puis comme je vous disais, en septembre prochain, en août prochain, là, à la rentrée, ça va être des milliers d'étudiants encore supplémentaires qui vont arriver. La question, c'est est-ce qu'on est capable de demeurer accessible? Parce qu'on s'est doté de cégep au Québec, justement, pour rendre l'enseignement supérieur accessible. Mais encore faut-il être capable de maintenir cette accessibilité-là.
Puis vous voulez dire en termes de coûts pour les gens qui voudraient s'inscrire?
Non, pas en termes de coûts, en termes d'espace. L'accessibilité en termes d'espace, parce que l'enjeu, il est vraiment là à l'heure actuelle. Là, c'est d'avoir, on a 200 000 étudiants présentement qui sont formés dans les 48 cégeps en 60 ans d'existence là, des cégeps. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui ont fait le choix du réseau collégial. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut être capable d'avoir les espaces adéquats pour les accueillir. Pas seulement des salles de classe, hein, c'est pas seulement des boîtes à cours, là. C'est aussi c'est un milieu de vie, donc c'est les cafétérias en ce moment là, qui sont bondées. Certaines situations où on se retrouve avec des jeunes parfois qui doivent manger dans leur voiture. C'est sûr que c'est pas idéal, là. Puis loin d'être idéal, c'est même vraiment malheureux comme situation. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on fait des demandes au gouvernement en leur disant, bien, écoutez, si l'éducation est une priorité, puis elle devrait l'être, là, c'est quand même le socle de notre société, bien, il faut que les investissements soient à la hauteur des responsabilités qui sont confiées au réseau. Là.
Pour rappel, on parle avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. On parle de l'état de déséétude très important dans nos installations au cégep. Madame Montpetit, dans les articles du Journal de Québec, Journal de Montréal, on voit également qu'il y a des cours maintenant qui se donnent jusqu'à 11 heures le soir. Est-ce une bonne façon de faire en apprentissage? Là, moi, je me remets à mes années de cégep. Là, si j'avais eu un cours à 11 heures le soir, ben premièrement, je serais arrivé avec 2-3 bières dans le corps parce qu'au Delzibar, c'était vraiment pas cher à côté du cégep Limoilou.
T'aurais passé ton temps avant le cours.
C'est bon. Ça. Et deuxièmement, un cours de philo à 9 heures le soir, pas sûr que je suis capable de suivre ça.
Ben les cégeps font ce qu'ils peuvent, comme je vous dis, pour garder ça accessible. Hein. Si on veut être capable de rentrer plus d'étudiants dans le même espace, ben ça demande ce type de solution-là. Il y a des cégeps qui ont décidé d'allonger leurs heures de cours en soirée, mais c'est tout le défi auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait un coup de barre très rapide qui soit donné pour créer des espaces supplémentaires. Si vous le nommiez d'entrée de jeu, c'est vrai que c'est une réalité dont on parle peu souvent, mais c'est des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Il faut des infrastructures sportives qui ont de l'allure, faut un lieu de vie, faut des cafétérias, faut qu'ils aient le goût d'être là.
Ouais, fait qu'à cet effet-là, des classes modulaires, c'est pas ce qu'on souhaite là, dans les cégeps, là.
Ben les classes modulaires, ça a beaucoup évolué. Hein. Maintenant, honnêtement, quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez pas vraiment la différence avec le fait que c'est pas un bâtiment comme tel. Donc honnêtement, ça marche très bien les classes modulaires, mais ça reste que c'est temporaire. Là.
Mais c'est ça que j'allais dire.
On construit à vie.
C'est là, de l'argent qu'on a investi dans quelque chose qui va être temporaire versus pour plusieurs années faire les choses comme il faut, comme il se doit. dès le départ, puis pas en entendre parler pendant 10 ans, ce serait quand même agréable au Québec. On a l'impression que c'est souvent ce qui se perd, qui tombe en deux cracks, en fait. Travailler en amont, c'est pas très sexy pour un parti politique, mais là, clairement, on se rend compte que ça crée des gros problèmes. Là. Puis ça va s'en suivre. Si un élève s'inscrit pas au cégep, ben c'est pas d'université possible aussi. Ça pourrait-tu rendre des programmes plus contingentés, même des programmes ouverts qui sont plus généraux habituellement?
Bien, on le voit déjà que à cause de la pression que ça amène, à cause du nombre, il y a plus d'étudiants dans le fond pour les espaces. Donc, on voit bien que des fois, les notes à l'entrée, elles sont plus élevées que les années précédentes. C'est pour ça que je disais en termes d'accessibilité, c'est tout là le défi. Là. Tu sais, juste pour en revenir à la question des modulaires, les modulaires, ça fonctionne bien aussi pour des classes là avec chaises, bureaux. Mais il faut pas perdre de vue que, ça répond pas aux espaces communs, comme je disais, des cafétérias, des locaux pour travailler. Mais on a 50% de nos étudiants là, sur le 200 000 qui sont dans des techniques en construction, par exemple, des techniques de génie civil, génie électrique, des techniques en santé aussi. Hein. On forme beaucoup, beaucoup de techniciens qui vont aller soutenir le réseau de la santé. Mais c'est souvent des équipements qui sont très, très gros. Ça rentre pas dans un modulaire. Donc, tu sais, il faut des espaces, mais il faut renouveler ces équipements-là aussi à grands coûts pour être sûr que les étudiants que l'on forme, ben quand ils rentrent sur le marché du travail en sortant du cégep, ben ils aient été formés, tu sais, sur des équipements de pointe, de haut niveau aussi. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, quand on parle de productivité au Québec, de résilience économique, encore là, c'est des étudiants du cégep là, qui viennent répondre à ces besoins-là.
Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps du Québec. Madame Montpetit, on vous souhaite bon courage dans votre combat contre le gouvernement, puis on va souhaiter là, que nos institutions, nos infrastructures collégiales là, reviennent à la hauteur de ce qu'on mérite au Québec.
Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir. C'était Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. Pascal, on va se faire un petit dossier cégep, nous autres aussi, cette semaine. Puis je t'explique. Demain, 13h30, on va recevoir Marie-Pierre Aubert, qui est directrice adjointe du service psychosocial du Cégep Garneau. Tu te souviens, c'est là 2 semaines avant que tu partes, on avait parlé des besoins en aide alimentaire qui avaient explosé au Cégep Garneau. Donc, Marie-Pierre va être disponible pour nous demain 11h30. Et jeudi, 11h30, 13h30. Et jeudi, 13h30, c'est Isabelle Morin, professeure de sociologie au Cégep Limoilou, dis-je mal. Elle vient d'écrire son premier livre, « Ma vie au Cégep ». Elle va nous parler des enjeux des étudiants au cégep à l'heure actuelle. Parce que j'ai fait une blague tout à l'heure en disant « Moi, je serais allé au Delzibar, le pot à 4 piastres, puis je serais arrivé un peu chaud d'ail à mon cours de philo. » Mais là, les étudiants, là, ils n'en ont plus d'argent.
Ils n'ont plus la même vie sociale. Non. Plus les mêmes... Puis tu sais, on fait des farces avec le bar, comme tu dis. C'est pas ce à quoi on s'attend nécessairement d'une
Exactement.
Vie quotidienne chez un jeune. Mais ça nous a tous formés. Je veux dire, sans cette période-là, on n'est pas où on en est. Moi, je suis pas mal moins calme. Si jamais j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire au cégep.
Exactement. Mais même principe pour moi. Puis en même temps, au niveau du milieu de vie, ce que Mme Montpetit nous disait, c'est très intéressant parce que compte tenu que les infrastructures sportives, les infrastructures récréatives n'ont pas suivi avec le nombre de personnes qui sont maintenant dans les cégeps, bien, les étudiants ont de la misère à faire comme moi je faisais, m'inscrire dans la ligue de volleyball, m'inscrire dans la ligue d'hockey COSUM parce qu'il n'y a plus de place.
C'est-tu quoi? C'est rare que je suis désillusionnée de cette manière-là dans la vie. Je pense que tu commences à me connaître un peu, mais tu sais, s'il y a un moment où j'aurais bien de la misère à me présenter en politique, si ça avait été quelque chose qui m'intéressait, c'est maintenant.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que tout ce dont on parle n'est pas colmatable en ce moment.
En effet.
Il manque de l'argent partout pour réaliser nos projets. On a clairement mal réalisé ce qu'on avait besoin, en fait. La création de richesses et tout ça, on a perdu beaucoup d'argent qu'on pensait être des peanuts, mais quand tu ramasses puis tu vois le projet électrique de ci, de ça, Lyon électrique, tu sais, tout ça, tu fais une grosse enveloppe budgétaire qui aurait pu être bien importante dans des endroits névralgiques.
Beaucoup mieux redistribuée, en effet.
Là, je me demande comment est-ce qu'on va réussir à traverser les prochaines années. Puis le clin d'œil que je suis capable de faire, c'est celui avec le projet de loi 2 au niveau des médecins. Mm-hmm. Il n'a pas passé. On le réécrit. Mais il y a quand même des médecins qui nous ont quittés pendant ce moment-là, qui sont allés ailleurs. Il y a quand même des gens qui ont pris la décision d'aller à leur retraite aussi, de façon peut-être plus rapide que ce qu'ils avaient mis sur papier. Et le creux actuel qui va être creusé, il sera dommageable pour des dizaines d'années encore.
Ouais.
On avait eu sous l'ère Couillard beaucoup de problématiques qui n'ont pas été colmatées et on était encore souffrant de ça. c'est un projet de loi qui n'a pas été appliqué et on va être souffrant de ça pendant plusieurs années encore. Ça, ce n'est qu'un projet. Fait qu'imaginez tout ce qu'on va avoir à rattraper pour la suite des choses. Là, on voit l'inflation, là. On voit les dommages de la pandémie, de la gestion pandémique, de l'économie, des loyers. On rentre là-dedans. Encore aujourd'hui, on apprenait qu'on était en hausse au niveau inflationnel. Oui. C'est des grosses années qui nous attendent, pas plus d'argent qui risque de rentrer, parce qu'encore là, il aurait fallu être prêt avec des projets. Ça me surprendrait qu'il y en a un qui pop et que, mon Dieu, on devienne si riche, finalement,
non,
de
en
nos
effet,
investissements.
En effet,
ça m'inquiète.
Oui, ça t'inquiète, et tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, parlant d'inflation, ben Gabriel Giguère, analyste senior en politique à l'Institut économique de Montréal, va être avec nous après la pause. On va parler de cette hausse d'inflation, encore une fois, 2,4 en décembre. Donc, rien de rassurant pour la famille moyenne, cette fameuse classe moyenne au Québec. Puis également, je sais, on va parler de tes sujets préférés. Mark Carney, pendant tes vacances, il est allé en Chine.
Eh oui, toi.
Puis il a signé les ententes économiques. Puis hier, au Qatar, il en a signé aussi. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? On va parler de ceci avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique à l'Institut économique de Montréal, immédiatement après cette courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 101.